maintenant place à Esperanto Magazine. Ils sont tous là, tous bien chauds. Bon pied, bon oeil, si je puis dire. Ils sont tous là. C'est parti. Donc, pour une nouvelle édition de Esperanto Magazine.
Esperanto Magazino de Toulouse.
Oh, 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 Esperanto. Oh, 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 Esperanto. Oh, 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 Esperanto.
Salut Donald Chiu, une bonne année d'esperon. Alors aujourd'hui, ben, comme d'habitude, Ingrid aux manettes, Séverin au micro, et puis nous avons une invitée, Rachida. Bonsoir Rachida.
Bonsoir.
Bonsoir Ingrid, mais elle est tellement occupée la pauvre que...
Elle nous fait des signes.
Voilà. Bonsoir Séverin.
Bon antagon.
Donc, aujourd'hui, on y a vas invititon, si nomijas Rachida, kai si parolos... pri sia asocio do ni vidas kio okazas kun Rachida en Toulouse. Si Ingrid est prête, on peut peut-être mettre tout de suite une petite musique. Qu'as-tu donc choisi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme établi.
Voilà. Alors, je commence par un groupe que j'aime beaucoup, c'est Kaitiel Plou. Voilà. Et ce sera avec Malfermo, Bellolino.
Oh, c'est joli. Voilà.
Malfermo Berulino, vagava tra dentro, Malfermo Berulino, vagava tra dentro, a dire Malfermo dove la va, a dire Malfermo dove la va. Regiare mia patria,
alors, Rachida, raconte-nous un petit peu. D'abord, qui tu es? Quel âge est-ce? Quelle couleur sont tes chaussettes?
Non. Alors, je ne porte pas de chaussettes. Quel âge j'ai? Faudrait demander à ma maman.
Et qui tu es?
Qui je suis? Alors ça, le pape le sait peut-être, mais il paraît qu'il n'a pas le droit. Après, sans vexer personne. Après, qui je suis? Je ne sais non. pas quel est le sens de ta question, elle est très mystérieuse.
Je plaisante. Non, mi demandis a Rachida, qui ou si estas, qui a ajas, anca qui a estas la coloro de si hai strumpetoi.
La couleur de mes cheveux?
Si, sed, mi vida. Sed, si ne respondis, do, mi demandos aliaen demandoin. Mi demandos al si, kion si faras ene de la asocio. Donc, que fais-tu au sein de ton association et comment s'appelle-t-elle? Quelles sont ses origines et tout et tout.
Et tout et tout. Elle veut tout savoir ce soir, mais elle n'a rien payé encore. On verra à la sortie. Alors, c'est l'Institut Platon. C'est une association qui existe depuis 1993. Elle est née à Toulouse. Et en fait, ce sont des ateliers d'écriture et de création littéraire dans un premier temps. Ça, c'est, on va dire, les fondations d'association. Et puis, depuis 1997, il y a des ateliers d'alphabétisation et de lutte contre l'illettrisme. Ensuite, il y a un troisième axe. Ce sont des ateliers, enfin, c'est le forum des éditeurs associatifs. Donc, nous essayons de faire connaître des éditeurs associatifs, de faire connaître leur travail, leurs œuvres, ce qu'ils produisent, ce qu'ils publient.
Do la asocio naskiĝis en 1987. Unu estis por alors au début c'était au départ c'était
des ateliers d'écriture et de création.
Atelieroj de skribaĵo kaj kreaĵoj ankaŭ. Kaj en 1997 estis alfabetizaĵo. Mi ŝajnas ke povas esti. Ankaŭ lukto kontraŭ la nekono de la literoj de la alfabeto. Ankaŭ estas forumo de eldonejoj, eldonistoj, asociaj eldonistoj. Et puis
juste une question, c'est en 1987 ou 1993?
L'association créée en 1993.
Ah, 13. Ah, naskiĝis en 1993. Mieraris. Donc, alors donc c'est pour, ça c'est encore pour konigi la eldonistoj, asociaj eldonistoj kaj la kreaĵoj de tiuj eldonistoj en de literaturo, cetere, en Toulouse.
Oui, donc elle se situe à Saint-Cyprien, grande rue Saint-Nicolas. C'est entre la Grave, l'Hôtel Dieu. Nous avons beaucoup été au Minimes. Le siège social d'ailleurs est au Minimes, tout au début, au centre culturel des Minimes, place du marché aux cochons. Et puis nous avons été rue Paris-Guéménière aussi pendant quelques années. Et puis voilà, puis depuis 6 ans ou 7 ans, nous sommes à Saint-Cyprien.
Ah bon?
Eh oui.
Pas plus.
En tout, depuis 93, ça doit faire 12 ans.
Ah oui, non, parce que je pensais que je te connaissais toujours de Saint-Cyprien.
Moi, j'ai toujours été à Saint-Cyprien. Je suis une cyprienne, mais bon, à part ça, l'association et moi, il y a quand même une différence.
Oui, non, mais je pensais avoir connu l'Institut Platon à Saint-Cyprien.
Ah.
Alors ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'on se connaît finalement.
Et bien, au moins 7 ans.
Oui.
Au moins 7 ans. Mmh.
Donc, j'ai cru entendre aussi que tu écrivais des livres.
Je suis auteur. Alors, je tiens à ce auteur. Ce n'est pas un effet d'accent. C'est réellement R-E que je mets à la fin, comme les francophones du Québec, du Canada. Parce que je trouve que ce mot auteur est très beau, et autrice, bof, bon, ça fait un petit peu oui. Autiste, même si les amis qui ont quelqu'un de leurs membres, enfin de leur famille qui est autiste, ce n'est pas très drôle du tout. Donc auteur, c'est quand même pas mal, je trouve ça très beau, et je pense que cette langue française, puisque nous sommes ici dans une émission d'espéranto, cette langue française, elle mériterait de s'écouter parler dans d'autres pays. Et elle mériterait d'être beaucoup plus riche, à mon avis.
Donc, mi diris al ŝi ke ankaŭ ŝi skribas libroj. Do ŝi diris ke ŝi estas skribistino. Yes. Do mi ne povas traduki ĉion kion ŝi diris, ĉar estas problemoj de la lingvo, de la franca lingvo, do se mi tradukas, mi timas ke tio ne donus ion tre facile franca la facila por kompreni.
En la franca lingvo nur ekzistas la vorto ambaŭ por
la viroj,
por la viroj kaj por la virinoj.
Mais avant de parler de ces bouquins, on va quand même revenir à tes ateliers d'écriture, hein, et aux éditeurs, tout ça. Alors, les ateliers d'écriture, hein, comment ça se passe, hein? Il y en a beaucoup qui donnent les cours, qui les animent, comment ça se passe?
Et à quel public ça s'adresse aussi?
Ah, et c'est qu'elle est intéressée aussi. Les ateliers d'écriture, eh bien nous, en tout cas à l'Institut Platon, nous avons des ateliers du lundi au jeudi soir. Donc ça se passe en soirée, sauf le jeudi où c'est l'après-midi aussi. Il y a un atelier l'après-midi. Ça s'adresse à tous les publics qui maîtrisent un minimum le français, en tout cas qui ont un minimum de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Il n'est pas nécessaire de maîtriser un vocabulaire universitaire, un vocabulaire hautement intellectuel ou je ne sais trop quoi, parce que qui parle de création parle aussi de sensation, de perception, de quelque chose d'intérieur. Et je pense que les mots viennent en général, les mots peuvent être très simples. Donc le public, c'est d'abord un public qui aime l'expression par l'écrit, comme on peut aimer l'expression par la musique, le théâtre, ou par l'ébénisterie ou le foot. Ceux qui sont dans les clubs de foot, ils aiment, enfin moi personnellement, je mets pas trop les pieds, mais il y en a qui aiment, pour qui c'est une passion, bon ben voilà, donc c'est une forme d'expression aussi le sport. Ça s'adresse à des gens qui aiment d'abord. Ensuite, nous, on a la chance d'avoir des hommes et des femmes. On a vraiment, j'entends beaucoup dire que ce genre d'activité, il y a surtout des femmes. J'ai la chance de ne pas connaître ça à l'Institut Platon. Il y a les deux.
Oui, à peu près même en
pratiquement égalité, à parité. Ouais, pratiquement, c'est vraiment. Il y a même, je dirais même, dans l'atelier du mardi, il y a une majorité d'hommes.
Oui, c'est vrai.
Donc,
je confirme.
Donc vraiment, c'est très 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 intéressant. Ensuite, l'âge, ma foi, il y a la plus jeune, c'est Jonia, qui doit faire ses 21 ans maintenant. Elle était arrivée, elle avait 18 ans. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, en termes de, il y a vraiment pas. Alors l'Institut Platon, c'est un peu spécial. Je peux pas expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il y a vraiment un véritable mélange. Je pense que je me serais sérieusement ennuyée s'il n'y avait que des hommes ou que des femmes. C'est pour ça que les clubs de foot, je trouve ça profondément... il n'y a que des mecs. Bon, ok, d'accord. Dans les clubs de foot féminins, il n'y a que des nanas. Bon, ok, d'accord. Mais quand il y a les deux, bon sang, c'est quand même très drôle, quoi. Et je pense que je ne serais pas restée longtemps à l'Institut Platon s'il n'y avait que quelque chose, que quelqu'un. J'aime bien quand ça se mélange, que ça même au risque de foutre le bazar, bon, qu'importe, mais au moins je sais que ça va bouger, quoi. Je sais que l'esprit va être obligé de faire quelque chose, va être obligé de se remettre en question, et c'est ça qui m'intéresse, une remise de question permanente, et ça c'est drôlement chouette, quoi. Alors je sais pas si ça répond à la question quel public. En gros, voilà. Après, qui anime, en général, j'anime. Ensuite, il arrive qu'il y ait soit des auteurs qui viennent, ne serait-ce que pour les pratiques, soit d'autres animateurs ou d'autres animatrices. Bon, moi, ça aussi, j'aime bien. J'aime bien changer, me mettre, moi, de l'autre côté, puis être animée à mon tour. Animer, c'est donner vie. Donc, à partir de l'instant où un atelier est vivant, ça veut dire que les personnes qui sont là sont vivantes aussi. Donc, j'aime bien qu'il y ait toujours des choses comme ça qui donnent vie. Donc, voilà.
Il y a à peu près combien de personnes qui composent tous les ateliers ?
Bah, chaque atelier, en général, ça va entre 6 et 8 personnes, 8 maximum.
Ah oui, quand même.
Voilà. Oui. Donc, de temps, il y a souvent... Là, ils sont complets, hein, les ateliers tous. Et bon, de temps en temps, il y en a toujours un ou une qui s'absente. Mais la plupart du temps, on est au minimum 7-8.
Et il y en a donc 4 par semaine, puisque lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est des niveaux différents, ou bien c'est parce que ça arrange les gens de venir le lundi, d'autres le mardi, ou bien c'est par affinité, par niveau d'écriture, de connaissance, de comment sont répartis les ateliers?
Alors, en tout cas, dans les ateliers que j'anime, il n'y a pas de niveau, c'est pas une question de niveau. Nous ne sommes ni à l'école, ni dans une entreprise, il n'y a pas de hiérarchie, on n'est pas au service militaire.
Non, mais je veux dire, il y en a qui peuvent commencer.
Par contre, il y a des ateliers pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué d'atelier.
Voilà, c'est ça.
Écrire chez elles. Il y a des personnes qui écrivent depuis très longtemps chez elles, en secret, qui n'ont jamais montré leur écriture. Et il y a des personnes qui écrivent, on sait vaguement qu'elles écrivent, mais bon, elles n'osent pas trop. Enfin, il y a toujours une espèce de pudeur à dire « oui, j'écris ». Donc, c'est plutôt une pratique d'atelier, une pratique d'écriture en commun, ensemble, écrire ensemble. Ça ne veut pas dire écrire la même chose, mais être chacun dans son coin, certes, mais dans un espace-temps en commun. Donc, il y a plus ça, des ateliers pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué d'atelier, qui n'ont jamais écrit en commun avec d'autres. Qui ne savent pas quelle est la place de l'autre dans la critique, dans le commentaire que l'on peut faire sur un texte, dans l'écoute que l'on peut avoir d'un texte. Puis il y a les ateliers pour des personnes qui ont déjà des pratiques d'atelier, que ce soit à l'Institut Platon ou ailleurs. Et donc, là, il y a déjà une émulation, il y a déjà... Et les choses, elles fusent. Après, il y a des ateliers... plus récits de vie. Là, c'est encore autre chose. Les personnes qui sont là, elles ont une vie à raconter, que ce soit la leur ou celle de quelqu'un d'autre. Il y a des familles, par exemple, surtout, c'est vrai que dans le midi, il y a quand même pas mal de familles qui ont des histoires très, très riches, ne serait-ce que parce que l'Espagne n'est pas loin, qu'il y a eu quand même la fuite de Franco et tout ça. Il y a eu la guerre aussi, quand même, la Seconde Guerre mondiale a laissé des traces. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont passées dans ce Midi-Pyrénées. Donc il y a vraiment beaucoup de richesses. D'ailleurs, il me semble, si ça n'a pas changé, j'avais discuté avec le conservateur de la Bibliothèque des Archives à Toulouse, qui disait qu'ils essayaient de garder les biographies, autobiographies, quand on avait écrit des choses comme ça sur sa famille, que ça tenait la route, non pas en termes d'écriture, de littérature, de grande littérature, mais quand même que les choses étaient plausibles, ils gardaient ça dans les archives pour la mémoire de la région. Oui. Je trouve ça très, très intéressant. Voilà, donc ce n'est pas une question de niveau, mais plus une question de motivation.
Ouais. Il y a des gens qui sont là depuis le début, ou bien il y en a qui partent, qui reviennent, qui continuent, il y a quand même des vieux, entre guillemets.
Ah, il y a les acharnés de l'écriture, hein. Ah oui, heureusement, c'est une passion quand même. Moi aussi, je suis une acharnée de l'écriture. Depuis l'âge de 16 ans, j'écris. Depuis que je sais tenir un stylo, j'écris, je veux dire. Donc, on m'enlève ça, on m'enlève une partie de mon souffle, quoi. On m'enlève quelque chose de ma vie, c'est vital, c'est pas possible. Je préfère me passer de manger que me passer d'écrire, c'est pas... Donc, c'est normal qu'il y ait des accros de l'écriture. Oui, il y a tout ça, tout ce que tu dis, c'est ça, il y a ceux qui écrivent depuis longtemps, qui sont là parce que vraiment il y a une émulation et tout ça. Il y a ceux qui arrivent, les tout nouveaux, qui sont encore très timides. Et puis il y a ceux qui prennent un petit temps, qui vont voir ailleurs d'autres ateliers, d'autres pratiques, qui essaient de voir aussi d'écrire seul, parce que c'est aussi un temps, c'est vrai, l'écriture, c'est aussi un temps solitaire. et puis qui à un moment donné sentent que bon, il manque. Les ateliers d'écriture, c'est pas nouveau, hein. On fait croire que c'est un super truc, machin. C'est pas vrai. Ça existe depuis Plotin. Il y a j'ai le trou de mémoire. Les arts poétiques de Boileau, par exemple, qui explique parfaitement comment il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut mettre, tout ce qui est écrit aujourd'hui, tout ce qui est tous les discours autour de l'écriture aujourd'hui ont déjà été faits depuis très longtemps, depuis des siècles, ça date pas d'aujourd'hui. Les Américains, tout pragmatiques qu'ils sont, ils ont su, dire comment il faut écrire, donc tout ce qui donne maintenant, tout ce qui nous donne à manger là dans les émissions, enfin les épisodes, les feuilletons,
les sitcoms,
etc. Mais tu prends Boileau, les arts poétiques de Boileau, il te dit comment écrire une pièce de théâtre, il te dit tout ce qu'il faut faire, quoi.
Donc
Ils ont tout compris, ils ont tout pompé, ils font du fric, quoi, ils savent faire de l'argent. Bon, voilà, leur truc, c'est l'argent. Ils sont pas hypocrites, eux, avec ça. Ils veulent faire de l'argent, ils font de l'argent. Si t'es pas content, eh ben, tant pis pour toi, tu meurs, tu crèves. Voilà. Donc, les Américains, ils veulent faire de l'argent. Nous, on fait pas d'argent avec les ateliers d'écriture. Mais c'est vrai, ils ont les write shops là-bas aux États-Unis qui marchent très très bien. Il y a des auteurs comme Paul Auster, comme Elia Kazan qui sont sortis des ateliers d'écriture, des write shops. Ah. C'est énorme. Donc bon, d'ailleurs Paul Auster, hein, il a un de ses textes, c'est le neveu de Rameau, c'est un plagiat du neveu de Rameau. Bon, voilà. Enfin, je sais pas s'il l'a plagié parce que je retire ce que je viens de dire. Parce que je sais qu'une fois j'avais écrit un truc pendant j'avais passé un week-end à écrire, mais un week-end enfermé chez moi. J'étais contente de moi, fière de moi. Oh là, jamais j'avais été aussi contente. Et ma fille qui passe, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, oh, tu sais, Sophie, j'ai écrit un super truc. Regarde, jamais je ne montre à ma famille ce que j'écris. C'est toujours les autres qui découvrent avant ma famille que je viens d'écrire, que je viens d'être publiée, etc. Et là, je lui montre. Elle regarde. Ah, 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 ah. Elle me rit au nez. C'était le plagiat d'un sitcom. Je regardais, ça faisait 10 ans que j'avais pas regardé la télé. J'étais verte. Mais vraiment, donc le plagiat, je retire par rapport à Paul Auster, mais enfin quand même...
C'est une coïncidence.
Voilà, une coïncidence terrible, affreuse, et s'il ne le sait pas, il faudrait que quelqu'un ait la bonté de lui dire, parce que... voilà, donc le plagiat, je ne sais pas. Et voilà, les ateliers d'écriture, ça n'existe pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a 20 ans, ça date depuis au moins 100-150 ans déjà.
J'espère que tu as pris des notes pour traduire, Christine.
Eh bien,
moi j'ai retenu une phrase.
Mi tuj clarigas al esperantistaj aŭskultantoj ke mi ne tradukos. Ĉar ŝi tro parolis. Ankaŭ mi konfesas ke mi ne povas ĉion traduki. Ankaŭ mi ne havos tempon por traduki la tutan.
Avec quelques mots clés, on aurait pu peut-être y arriver. Je sais pas comment font les traducteurs. Moi, j'ai retenu animer, c'est donner vie, et ça m'a fait penser au mot en espéranto animo, qui veut dire l'âme, l'esprit. Je fais un peu le lien. Je trouve ça joli.
Mais bon, je propose qu'avant de passer à l'auteur et aux éditeurs associatifs, je propose que on écoute une petite musique. Alors Ingrid.
Oui, alors on va écouter Kaito avec Dormu Milde.
Oh. Ah, mais on connaît ça déjà. La berceuse préférée.
Sono morta post minuto di avana gem rubeno riverensos cum saluto. Sen sereno
Alors,
tu es en train de parler feuilleton.
Oui, on parle feuilleton, sitcom et tout.
Alors, ça passionne tout le monde, la preuve.
Oui, même ceux qui n'ont pas la télé.
Voilà. Exactement.
Alors, donc, maintenant, on parle de quoi ? Des auteurs associatifs ou des éditeurs associatifs ou de toi ? Qu'est-ce que tu préfères ?
Oh, bon, on va parler des éditeurs associatifs quand même, c'est voilà. Bien. C'est bien, c'est important.
Oui.
L'édition associative en Midi-Pyrénées, quand même, c'est vraiment le parent pauvre. C'est étrange comment est-ce que nous avons des institutions qui veulent délibérément ignorer les éditeurs associatifs. C'est...
Comment ça par délibérément ? C'est qu'ils gênent ? C'est que ça n'intéresse pas ?
Les éditeurs associatifs, a priori, ne sont pas monnaie d'échange.
On en revient donc à l'argent.
On en revient à l'argent. Un éditeur associatif, c'est un passionné. Et il va, si le texte le passionne, même s'il est sûr qu'il ne vendra pas et qu'il a 3 sous dans sa poche, il va le publier. Alors qu'un éditeur commercial, comme son nom l'indique, c'est un éditeur qui va d'abord se poser la question, est-ce que c'est vendable ? Si c'est vendable, il va le publier. Si ce n'est pas vendable, il ne le publiera pas. Donc, la question de cette question-là, quand même, elle est grave, parce que s'il n'y a pas un réseau, s'il n'y a pas, ça ne marche pas.
Alors, laisse le monopole de la culture à ceux qui ont l'argent, finalement.
Ça laisse le monopole de la culture à ceux qui ont l'argent. Ça, ce n'est pas nouveau. Et surtout, ça nivelle.
Ça lisse la culture.
Ça lisse la culture, mmh. Ça la nivelle. Et ça, c'est quand même grave pour un pays qui est censé être, qui est censé avoir une richesse. Surtout...
Moi, je dis plutôt.
Oui, ben, disons que maintenant, il se la joue, quoi. et surtout, un pays qui, normalement, a une histoire. Et surtout, quand je dis un pays, là, vraiment, je parle de Midi-Pyrénées. L'histoire des troubadours, l'histoire... Il y a quand même les jeux floraux, il y a quand même... Ce n'est pas rien. Eh bien, là, ça n'a plus, a priori, ça n'intéresse pas. Pas nos...
On choisit pour nous ce qui nous intéresse ou pas.
Oui, mais largement, oui.
Au niveau de la distribution des éditeurs associatifs,
ça se passe donc, bien. Les éditeurs associatifs, on a fait une tentative à l'Institut Platon en 99 de les rassembler, de rassembler ceux qui avaient vraiment conscience de ça et qui en avaient assez. À l'époque, moi j'avais assisté à une réunion au Conseil régional. Et il s'est passé une histoire vraiment extraordinaire. Le président du Centre régional des lettres à l'époque a tapé sur la table, il y avait tous les éditeurs, c'était pour parler du Salon du Livre de Toulouse, on en reparlera peut-être, et il y avait tous les éditeurs qui étaient là, les petits, les grands, les moyens, les intelligents et les autres. Et ils n'étaient pas contents. Il n'était vraiment pas content. Et nous avons donc le président de l'époque du CRL qui tape sur la table en disant « ça suffit, maintenant c'est moi qui ai l'argent ». Moi j'étais toute nouvelle, c'était la première fois que j'assistais à ça, à une réunion des éditeurs. J'étais allée vraiment par curiosité, je n'avais aucune arrière-pensée. Et là j'étais outrée, je trouvais ça scandaleux. Il y avait tous ces messieurs, tous les éditeurs de Midi-Pyrénées qui étaient là, dans ces immenses salles du conseil régional, superbes et tout. Qui ont été payés avec notre argent. Et je me suis dit, tous ces hommes ne disent rien. tous ces hommes si courageux ne disent rien, c'est incroyable. Lui, il a l'argent, mais eux, ils ont la publication, et ils ont un pouvoir aussi. Et ils sont restés comme ça, et j'étais pétrifiée. Et je suis partie de cette réunion en me disant, il va falloir faire quelque chose. Donc là, j'ai appelé tous les petits éditeurs, j'ai pris l'annuaire, j'ai tout fait tranquillement, et je les ai appelés un par un, les petits, les associatifs, tout ça, en leur disant, ben voilà, je vous propose, ben c'est peut-être de créer un forum des éditeurs associatifs, et puis essayer de voir comment on peut faire une distribution. Alors, évidemment, les éditeurs associatifs sont des individualistes aussi, hein, ils ont leurs défauts, faut pas non plus... sont des individualistes, ils sont dans leur coin, ils font leur truc parce que c'est des passionnés, quoi. Ils font leur machin dans leur coin par passion et puis ils cherchent pas forcément à ce que ça éclate les plafonds. Et là, effectivement, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose et c'est depuis 99 donc le forum existe. Alors il y a des allées, des venues, mais il y a toujours les piliers, ceux qui ont bien compris qu'il fallait absolument tenir, quoi qu'il arrive. Et ça marche. Alors tout le monde, personne ne pensait que ça marcherait. Il y en avait qu'un qui avait parié sur nous, c'était le DRAC, le directeur DRAC du livre, qui a dit, bon, ben pourquoi pas. Bon, il a attendu 2 ans quand même, histoire de voir si c'était pas juste une lubie. Puis finalement, il s'est dit que c'était pas mal. Il a donné 3 sous pour pouvoir faire un catalogue des éditeurs associatifs de Midi-Pyrénées, chose qui n'était pas arrivée. Et ils avaient fait une tentative, ils m'avaient dit, hein, à la région, ils avaient fait une tentative, enfin au CRL, il y avait 20 ans, mais bon, une tentative, quoi, comme on tire un ballon d'essai, et puis bon, ça passe à côté, c'est pas grave, on n'essaie pas d'en retirer un autre. Nous, on a décidé qu'on ferait le maximum, tant pis, puisqu'on ne cherchait pas d'argent non plus, et puis voilà, et puis ça dure. Donc ce salon, alors on essaie partout où il y a des salons du livre de faire en sorte que les éditeurs associatifs soient présents. Voilà, pour le moment ça fonctionne relativement. Donc du coup j'invite les Toulousains et les Toulousaines à aller à Balma, au salon du livre de Balma les 7, 8, 9 avril. Et surtout de s'arrêter au stand du forum des éditeurs associatifs et pas forcément d'aller là où il y a toute la foule, quoi, à la queue des moutons. Moi, personnellement, justement, puisque Kiki, tu demandais si je voulais parler de moi, bon, je fais partie des invités dans ce salon, donc je serai...
Oui, parce que c'est la littérature
maghrébine
qui est à l'honneur cette année.
Francophone du Maghreb. Donc, j'en serai. Bon, être là, attendre que ça passe, moi je m'ennuierais un peu, parce que de l'autre côté, sur le salon du livre, sur le salon des éditeurs associatifs, sur le stand des éditeurs associatifs, on parle beaucoup, mais on parle pas forcément que de nos bouquins. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller sur le forum des éditeurs associatifs.
C'est combien l'entrée juste
Normalement, c'est gratuit.
C'est gratuit, oui.
Il y a une année où ils avaient fait payer. Non, il a pas tort. Il y a une année où à Balma, ils avaient fait payer l'entrée. Et a priori, ça n'avait pas plu. Mais ça n'a duré qu'un an. Hein. Mais à Balma, il faut dire aussi qu'ils font un gros effort. Donc c'est bien.
C'est le salon du livre et du vin.
Ouais. Voilà. Enfin, de vin, il n'a plus que le nom.
Ah bon,
ouais, parce que du temps de la Gite, quand c'était François Fenner et le théâtre de la Gite qui s'en occupaient, c'était vraiment convivial. C'était vraiment la fête dans tous les cas, aussi bien pour le livre que pour le vin que pour le reste. Là, c'est c'est juste pour garder une trace, je pense, une identité. Mais bon, qu'importe, de toute façon, c'est pour ce qui m'en concerne, c'est le livre qui est important.
Voilà, alors donc toi, tu es auteur, parce que le temps passe, il va y avoir le cours de Séverin. Vite fait, hein, du coup,
d'accord,
ça va
je vais essayer pour une fois.
Qu'est-ce que... Non, c'est Rachida qui va faire vite fait. Donc, tu en es à ton combien ? Quatrième ?
Alors, troisième roman, il y a un quatrième qui est sorti, c'est un documentaire qui s'appelle Vent de liberté. Et là, j'invite vraiment tout le monde, justement, à aller sur le Salon du Livre de Balma pour se le procurer, parce que c'est toute une histoire qui a raconté, c'est tout un document, c'est un documentaire qu'on m'a demandé de faire. Mmh. Et ce sont les collectifs d'Ampalo, Faourette, Les Isards, qui ont fait tout un travail de 3 ans avec les jeunes des cités, justement. Et où ils ont fait un travail sur les femmes, sur la relation garçon-fille, le voile, la laïcité. Enfin, vraiment, ils ont fait un travail monstrueux. Ils ont fait venir des Palestiniens, des jeunes Palestiniens. Ils ont fait venir Adital, israélienne, de l'association israélienne. pour la paix, qui lutte avec les Palestiniens paisiblement, pacifiquement pour la paix en Israël-Palestine. Donc vraiment, ils ont fait un travail monumental et ils m'ont demandé d'en faire un livre. Voilà, et donc ce livre, tous les bénéfices, etc., va donc au collectif interculturel Faourette, Bagatelle et Isard pour les aider à continuer à monter d'autres projets et peut-être à faire une autre publication. Donc s'il y a vraiment un livre à acheter, ce n'est même pas moi en tant qu'auteur, ça je m'en fiche dans le sens où j'aime écrire et comme je suis publiée, bon, ça va, j'ai ce privilège, j'ai cette chance, mais ce bouquin-là, vraiment, achetez-le pour le collectif.
Alors sinon, le premier, c'est La jeunesse de Victor.
Oui.
Voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'en 5 minutes, tu peux nous parler donc, de tes 3 bouquins, vite fait, comme ça?
La jeunesse de Victor, voilà. C'est un assistant social qui en a marre des assistés, des exclus, des chômeurs, des femmes isolées, des inadaptés, des handicapés, tout ce qu'on veut, quoi. Il en a marre, il veut prendre une année sabbatique, il s'en va au Maroc. Il se dit, je vais aller dans le désert marocain, je me ressourcerai, je me retrouverai, enfin voilà, quoi. Il rêve, quoi, parce qu'il pense que le désert, c'est vide, mais c'est pas vide. Alors, il va revenir un petit peu de ces idées-là. Il rencontrera l'amour, mais bon, elle est marocaine, elle est musulmane, elle vit là-bas, elle est veuve. Bon, ça, c'est pour la jeunesse de Victor. Je vous laisse deviner un peu ce qui pourrait se passer, ce qui se passera peut-être. Ensuite, Larganier. Alors, Larganier...
J'ai envie de le lire.
Larganier, oui. C'est Muriel. Alors, elle est bien française, comme Victor, d'ailleurs. Victor est chrétien, pas pratiquant, mais d'une famille catholique bien pratiquante. Lui ne l'est pas. Il est croyant, mais bof, sans plus, quoi. Muriel, elle a rien de tout ça. Elle est SDF. Depuis l'âge de 8 ans, elle a foutu le camp de chez sa tante où on l'avait placée. Et puis, donc, il y a un mec, un vieux de la rue qui la prend sous son aile, qui la protège. Donc, ils vivent dans la rue. Puis, un beau jour, elle décide de sortir de la rue. Et donc, voilà. Et comment elle va faire, comment elle va s'en sortir, comment elle va rentrer dans les rails et comment elle va faire fortune, devenir... faire fortune, tout simplement. Et après, Zohour. Alors, Zohour...
Donc, vous êtes obligés d'acheter les bouquins.
On va voir la fin de l'histoire, quoi.
Ah, mais tu m'as dit...
Elle est pas mal commerciale, quand même, finalement.
Tu m'as dit...
Non, elle parle bien de ses bouquins.
Je me dis, c'est quoi? Je vais à l'essentiel.
Elle va plus oser rien dire, maintenant.
Et Zohour, c'est un pluriel. Normalement, c'est le pluriel de fleurs. Et c'est le prénom du personnage principal qui est donc une femme. Zohour vit au Maroc, elle est marocaine, elle vit là-bas et elle s'occupe de l'aïeul et elle en a marre de s'occuper de l'aïeul, ça la fait chier parce que toute sa famille est en France et elle veut venir en France elle aussi, il n'y a pas de raison que tout le monde, enfin c'est le paradis, c'est l'Amérique, quoi, la France, et donc elle voit pas pourquoi elle reste là-bas à garder la vieille et puis elle, elle est en France, donc... Elle prie, puis elle a une sœur qui, elle, vit en France, puis quand elle vient au Maroc, sa sœur, elle est super habillée, super sapée, tout ça, et l'autre, ben, elle dit, c'est pas juste, elle pourrait au moins venir un mois la garder, puis moi partir là-bas un mois, juste comme ça, quoi, je demande même pas à ne plus garder la gueule, quoi, et en fait, personne ne veut de ça, parce que ça arrange tout le monde qu'elle la garde. Voilà.
Forcément.
Donc, comment faire comment faire quand même pour venir en France? Et il y a sa sœur qui arrive en train et tout, puis en fait, elle espère que sa sœur meurt, enfin, je sais pas, qu'il y ait quelque chose, qu'elle supporte plus, elle la hait, sa sœur, quoi. Elle a une haine farouche pour sa sœur. Et puis, il se trouve que sa sœur, elle meurt dans le train. Et puis justement, c'est dans un wagon où il y a des footballeurs. C'est l'équipe de foot marocaine. On la retrouve morte là-dedans, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, elle a bien bu, elle meurt d'une surdose d'alcool dans le sang. Mais voilà.
Et ça, je suis mariée.
Ben ouais, je me suis mariée à l'écrire, donc... voilà, donc elle arrive en France et on ne sait pas... voilà, le reste, on ne sait pas comment elle va vivre. Elle devient riche et célèbre, elle.
Oui.
Ouais.
Enfin, moi, je vous invite à les lire parce que c'est vrai que ce sont des histoires qui sont très intéressantes et c'est bien écrit. Ça va, ça se lit bien, c'est sympa. Ça peut servir de livres, ben, si on prend le train, même pour tout seul, tranquille, au soleil, et surtout maintenant, là, avec le printemps, sous un arbre, dans le hamac, voilà. Bon, ben...
Il y en a qui s'y croient déjà, à la technique.
Oui, oui, voyez, Ingrid, elle est déjà en train de rêver dans le hamac. Bon, ben, si on se faisait une petite pause musicale avant de faire le cours, et puis, bien sûr, Rachida, tu participeras au cours.
Je vais essayer de faire le cobaye, si vous voulez, mais voilà. Bon, je ne garantis rien.
C'est juste un petit quiz de vocabulaire. Ça s'appelle un cours, mais c'est un peu pompeux d'appeler ça un cours.
Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu nous passes comme musique?
Alors, c'est Dolce Amar, en Grecia, et on retrouve Séverin juste après.
Voilà, j'espère que Dilet, ça nous écoute, et comme ça, elle sera contente d'écouter Dolce Amar.
Mirre vispri la pensire, tu ma considerico. Ero is en antiqua trore, ti passis la te. Secretarie vorto in corpo per me dir porta spiro del sud va con al dielo chi abbavus mi
de Séverin. Alors aujourd'hui, c'est encore une chanson de Georges Brassens, je pense.
Voilà, ce sera la dernière.
Dans la course de Séverin, con la l'asta canto de Georges Brassens, il fama Franza cantista. Dans esta tu la compagnard. Alors, ouais. On fait un petit quiz.
Donc, les copains d'abord en français. Alors, un petit quiz de vocabulaire avant de passer la chanson et normalement, vous devriez pouvoir comprendre un peu les paroles, surtout que vous la connaissez déjà en français. C'est pas du mot à mot. Donc pour commencer, je me posais la question quiz. Comment on dit quiz? C'est un mot français, ça?
C'est pas grave.
Et en espéranto, vous n'avez pas d'idée? Non, bon. Quizo, peut-être.
Allez.
Alors, tu il accompagnaro.
Ben, normalement, tu il accompagnaro, c'est maintenant les copains. Voilà, oui.
La bande de potes.
La bande de copains, oui.
La skippo.
Le bateau.
Non, ça c'est la shippo.
Ah, la skippo, c'est l'équipe. Hein.
Voilà, comme en anglais. La méduse flosso.
Le radeau de la méduse.
Ouais. J'arrête de bouger, ça s'entend dans le micro.
Voilà, bon. Énormément.
C'est ma chaise aussi, elle est nulle cette chaise. Raveno.
Le porc.
Oui. Famigui.
Alors, faire connaître, rendre célèbre.
Voilà, famo, c'est... fama, c'est fameux.
Non, donc, célèbre.
Célèbre, fameux.
Le fameux, en français, ça ne veut pas forcément dire célèbre.
Oui, d'accord. C'est le procédé mnémotechnique que j'utilise pour retenir voilà. Le mot. Famille, goût, rendre célèbre. Gvieté.
Gvieté, tranquillement.
Ouais. Alors, fluctuat nec mergitur.
Oui, alors fluctuat nec mergitur, ça c'est du latin. Donc, on n'a pas à le traduire, c'est dans l'original, comme ça. Bon.
Est-ce que vous voulez quand même le savoir? Alors, c'est une citation latine qui veut dire « il tangue mais ne coule pas » et c'était la devise de Paris pendant des années. Alors, malplacci.
Ne plaît pas.
Voilà. Perfidulo.
Un homme perfide. Hein,
Les traîtres.
Voilà.
Matrosso.
Matrosso.
Ça veut dire la même chose que chipano.
Chipano, ben c'est un marin.
Le matelot.
Un matelot. Oh, et le matelot.
Capitano. Bon, ça, c'est trop facile.
Laisse-le-moi, capitaine.
Mais Ingrid a mal à la tête aujourd'hui, la pauvre. Donc, on ne peut pas lui demander de choses trop compliquées.
Bon, un autre facile qu'elle peut deviner. Fiacciulo.
Non, c'est trop dur.
Fiacciulo, c'est un enfoiré.
Voilà, fiacciulo. Donc, il est à la fois fi, à la fois hatch.
Oui, là, il a tout gagné.
Là, il faut trop découper, c'est trop dur.
Inclini.
Incliné ?
Oui.
Ah bon.
Castoro caipoluxo.
Castor et Pollux.
Ouais. Alors, comme je ne sais pas qui c'est, forcément, c'est des références historiques.
Castor et Pollux, mais ce sont des planètes ou des étoiles plutôt, non?
Des constellations. Non.
Enfin, c'est dans le ciel.
Sodomo caigomoro.
Bah, ça, c'est pas des constellations.
Bon. C'est une ville antique réputée pour sa dépravation. Pour ceux, j'ai pas lu la Bible encore. Il faut lire la Bible. Similezzo.
L'égalité. La
similitude.
Similitude,
oui. L'égalité, c'est.
Égalezzo.
Ouais, je crois. Montaigne et Boétio.
Bah, Montaigne et la Boétie, ce sont donc deux auteurs français.
Voilà, qui sont connus pour avoir eu une amitié forte et ambiguë, dont cet homophobe de Brassens plaisante gentiment. Bon, non, on va pas faire du politiquement correct. Alors, je cherche des mots difficiles, comme j'ai tout traduit.
Mais tu n'avais pas fait le quiz, hein?
Credo. Si, mais j'ai mis tous les mots. Alors, Angelo, je vais pas vous demander de. Angelo, allez.
Ange, pourquoi oui. Tu me regardes? Oh.
Amusiggio.
Amusiggio.
Amusement.
Voilà. Trovigi.
Se trouver.
Oui. Dia.
Dia. Alors en espagnol, je sais que c'est un jour, mais en espéranto.
Dio, c'est Dieu, et dia.
Ah, divine.
Divin.
Divin, divin.
Divine aussi.
Mais bien sûr.
Alors quelque chose de sacré. L'amichezzo.
Ah, ben l'amitié.
Litanio.
Litanie.
Credo.
Croyance.
Oui.
Ouais. Alors, un mot difficile. Ek, blov, egi.
Ek, blov, egi.
Je n'ai pas réussi à le dire.
Ek, c'est commencer.
Commencer à souffler, oui.
Commencer à souffler. Et egg, c'est et
un beaucoup souffler. C'est la tempête, quoi. Ouais. C'est la tempête qui commence.
Et justement, la tempête. Tempesto.
La tempête.
Voilà. Bon, après, c'est trop compliqué. Donc je vais... Ekveli. Ça m'a plu, ce mot. Ekveli.
c'est joli, oui.
Vélo, c'est le... Vélo, c'est... Alors,
ah,
vélo.
Ah, d'accord, un vélo, ben, c'est une bicyclette.
Non. C'est un faux ami. Vélo.
C'est un voile ou une voile.
Oui, voilà. Celui-là, il m'a donné du fil à retordre. Compasso.
Un compas.
Ouais, une boussole. Ekminati.
Ekminati.
Minati.
Minati. Commencer à menacer. Qui, ouais. La tempête qui se lève.
Voilà, on imagine un peu rien qu'avec les mots. Cauchemaro, ça c'est facile. Rendez-vous aussi. Malofti. Ah, ça on peut deviner même si on connaît pas.
C'est pas souvent.
Voilà, donc, comme ofté ça veut dire souvent. Donc malofti c'est arriver rarement.
Voilà.
Un mot typiquement espéranto, ne che esto.
Ne pas être, hein, ne pas être présent, ne pas assister.
Donc l'absence.
Voilà.
Ne, non, che, là, et esto, le fait d'être. Ça doit être pratique pour la philosophie espéranto. Il faudrait demander à des philosophes. Alors, faire déco.
Faire déco.
En français, on voit bien ce que ça veut dire.
On peut se mettre alors, devant un tableau et faire déco.
Donc, ça, c'est introuvable, à moins peut-être pour ceux qui sont marins. Ça, c'est un mot qui est lié à la marine, c'est le pont du bateau.
Ah, bon, si.
Oui, forcément.
Moi, tu avais trouvé voile.
Oui, ouais. C'est déjà pas mal. Parce que c'est pareil qu'un espagnol. J'ai pas beaucoup de mérite.
Culpi.
Ben, culpabiliser.
Et non, ça, ce serait culpi. Oh. Culpi, c'est être coupable. J'ai cru comprendre. Donc, c'est pratique. Bon, après...
Mais après, c'est la chanson.
Voilà. Ah non, un mot joli. Port éterné.
Pour l'éternité.
Voilà, éternellement. Shipanta.
Alors, le bateau, c'est Chipo, Chipanta, Chipolata, Grillade, Merguez, non, c'est pas ça.
Plâtre.
Navigant. Et un dernier mot, joli, enfin, je trouve, toute solidaire.
Ah ben, tous solidaires.
Solidarité totale. Pour les manifestations, toute solidaire.
Bon. Voilà.
Et bon, alors, comment on dit toute solidaire demain?
Demain, Morgao, tout solidaro, Morgao. Allez, c'est parti, on écoute donc tout il accompagnard par c'est Jacques Ibarra qui le chante.
Voilà, mais voilà. C'est Marcel Redoulez qui a fait la traduction.
Voilà.
Et Bernard Léger.
Voilà, après on reparlera vite fait, on redonnera les titres des livres de Rachida et on se dira au revoir.
Et la date prochaine. Du salon du livre de Balma.
Voilà.
Apartenis al laskip del medus floso tiu ship famigution en haven en ciu haven navigis gi sen avatar quiete sur la granda mar nomigis tui la companar la fluctuat nec meritur nestis por gi literatur malplaciu al la perfidul ciu perfidul. Matrosoi cae la capitan, ne estis fiatsu la clan, sed vera samideanar, samideanar. Inclinis ili ne al lux, nec estis Castor cae Pollux, nec el Sodomo cae Gomor, Sodom cae Gomor. Ne similets al simpati inter monten cae poesi, nur amusigio ien la far de la companar. En gi trovigis de angel, conante pri la diesel, nur amicetso, en farfar amos en compar. Jean-Pierre Paul, cae compagni, jen gia nura litani, cae giai credo, cae declar, jen la companar. Se ec blovegis la tempest, starigis tui la amicets, giroris, sam kiel compas, sam kiel compas. se ekinacis la danger, kai chanceligis la esper, ek veris for de la cosmar tu la compana. Al rendezvous del amiquez, maloftis iunecies, se homo manquis sur ferdec culpis mortopec. Sed por eterne en la mar, malplena tuo restis char, li manquis due ar postiar en la compana. Gain ship point uses me, sed ununur memoras mi ship pantan en tut solida, en tut solida. Navigis ship sen avatar, quiete sur la granda mar, nomigis tu la comparar.
Voilà, donc c'était Jacques Ivar avec tu la comparar. Donc, on va se dire au revoir, mais on va quand même reciter les livres de Rachida. Donc, il y a La Jeunesse de Victor, dans l'ordre, hein, dans l'ordre chronologique d'écriture. La Jeunesse de Victor, L'Arganier, Zour, et puis donc Vent de Liberté, qui est aussi avec coédition, non pas coédition, tu l'as écrit avec d'autres personnes, c'est ça, hein?
Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu les propositions d'écriture de nombreuses personnes, il y a personnalités, je dirais. Par exemple, il y a Toubiana qui a été président de la Ligue des droits de l'homme France, qui est intervenu, Weber, qui est donc prof à la fac du Mirail, que tout le monde doit certainement connaître. Il y a Aïcha Chena, qui est une femme exceptionnelle au Maroc, qui a reçu la médaille du je ne sais pas trop quoi, enfin un truc machin très honorifique du roi du Maroc, Mohamed VI, parce qu'elle lutte contre le droit de la famille, que tout le monde connaît ici, pour le droit des femmes, et surtout pour que les femmes, qu'on arrête d'utiliser les jeunes filles, etc., comme boniche, et puis ensuite on s'en sert, ces messieurs s'en servent et puis les jettent, enceintes, etc. J'utilise volontairement des mots violents parce que c'est comme ça. Il y a une contribution, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Adi Tal, qui est une jeune israélienne extraordinaire, militante israélienne, etc., etc. Et donc, moi, j'ai utilisé tout ça pour en faire un livre, toutes ces contributions, et donc, c'est Vente de Liberté, et c'est le collectif interculturel de Midi-Pyrénées. Bon, il y a mon nom dessus parce que c'est moi qui l'ai fait, mais là, franchement, honnêtement, en toute humilité, je dis merci à tous ces gens d'avoir fait tout ça.
Ah oui, parce que sans eux, c'est sûr que tu n'aurais pas pu le faire.
Tout à fait, madame.
Voilà. Bon, ben, on n'a pas eu le temps de parler des projets de l'Institut Platon. Je voudrais quand même simplement dire qu'il y a eu dernièrement un travail en commun avec Ecoumène, qui est un bouquin, un magazine dans lequel tout le monde peut écrire. On va le faire vite, donc tant pis. Mais il y a eu en commun, donc l'Institut Platon et Ecoumène, un roman photo. Donc moi, je vous invite à passer à l'Institut Platon, ou bien dans d'autres endroits, comme le Moulin à Parole.
À l'Utopia, on peut le trouver, l'Ecoumène.
Voilà. À la médiathèque associative.
Voilà. Et donc de passer, de prendre cet Ecoumène. Vous pouvez prendre aussi d'autres numéros. Ça ne coûte que 2 euros. Et c'est très, très sympa. Voilà. Eh bien, l'émission se termine. On vous dit à la semaine prochaine. Et je m'excuse encore une fois auprès des auditeurs espérantistes. Domi aliafoy mi pardon petas a la esperantista y auscultanto, y sed la el sendo estis tro grana, tro estis tro da feroi por cion traduki. Sed venanta semaino mi certe mi tui cion tradukos. Gis, venanta semainon. Gis.
Gis revido.
Alors, ça doit vouloir dire au revoir, alors gis. Et merci.
Et merci, oui, à tout le monde. Miri, au général, Rachida, comme d'habitude. Ciao.
Esperanza. Esperanto Magazino de Tuluzo.
Oh, 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 oh. Esperanto.